David en a amené une caisse, deux caisses, non, deux caisses. Non, mais il y a tout un entrepôt de l'autre côté de la rue. Voilà. Et très beau livre. Livre pour évangéliser, peut-être, mais aussi pour se tremper dans ce que le Seigneur a fait, dans l'œuvre du Seigneur. J'ai regardé sommairement, je n'ai pas eu le temps de les lire, mais j'ai 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. C'est 50 fois une ou deux pages. Vous pourriez les prendre, vous pourriez lire ce livre-là sur 50 jours et méditer à chaque fois. Et ce serait intéressant, très intéressant. Donc, vous pouvez... l'autre, le scandale, la croix est un scandale, je ne l'ai pas feuilleté non plus, mais je fais confiance à David, pourquoi que c'est un bon livre. N'est-ce pas, David? Good. Bien. Merci, Guillaume. Et j'imagine que c'est encore bon, ça. Pourquoi? Pourquoi il est vivant? Est-ce que c'est important qu'il soit vivant? On a entendu ce matin de David, on a entendu de Adama, on a entendu de beaucoup de personnes comme quoi que ça avait un impact. C'est important. Mais si on prenait un micro, on allait sur la rue et on poserait la question, quelle est la fête la plus importante de l'année? N'importe qui sur la rue. J'espère que ce n'est pas moi qui avais dit ça. La fête la plus importante de l'année. Probablement que ex aequo, Noël et Halloween seraient pas mal en premier. Il y aurait ensuite peut-être la Saint-Valentin. Et il y aurait peut-être beaucoup de fêtes qui viendraient. Et finalement, ils diraient, ah oui, pas, quand la neige fond, là, ça c'est le fun, ça. Quand il y a du chocolat et ça attarde. Pâques, pour des gens d'extérieur, c'est absolument négligé. Mais ça ne devrait pas l'être pour nous. Ça devrait être très important. Pâques est essentielle. La doctrine de la résurrection est absolument contestée partout. Et depuis 2000 ans qu'elle est contestée. Elle est encore contestée aujourd'hui. Elle était contestée dans le temps. OK? Lorsque le Seigneur est ressuscité, ils ont tout fait pour dire à quelque part, c'est pas vrai. Il y a toutes sortes de théories, même des théories modernes, contemporaines. J'écoutais il y a quelques années et ça me faisait sourire. Jésus a descendu de la croix, il paraît que Jésus a descendu de la croix puis il s'est sauvé en Inde. Et là, il y a une famille avec des enfants et ainsi de suite. Belle théorie. Mais à force de dire des mensonges, ça ne devient pas des vérités. Là. Un mensonge reste un mensonge, il va toujours être un mensonge. C'est contesté, et c'est très contesté parce que la doctrine de la résurrection est absolument essentielle à notre vie chrétienne. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens explique toutes les conséquences, et notre frère en a apporté quelques versets ce matin, et explique toutes les conséquences si la résurrection n'avait pas eu lieu. Imaginez seulement que Jésus soit venu sur la terre, comme il l'a fait, né d'une vierge, et que c'est l'Esprit-Saint qui a implanté dans le sein de la femme, et qu'il ait marché en sainteté sur cette terre pendant 33 ans, qu'il soit mort sur une croix pour nos péchés, tout est conforme, mais qu'il n'est pas ressuscité. Imaginez qu'il n'est pas ressuscité. Le Nouveau Testament n'existerait plus. Ça irait aussi loin que le Nouveau Testament, il faudrait le bannir de nos lectures. Et même de grandes parties de l'Ancien Testament n'auraient plus de valeur. Ça ne voudrait plus rien. Notre salut n'aurait plus aucun sens, comme notre frère a dit ce matin. L'Église n'aurait plus ce fondement-là. On deviendrait probablement un bon grand club de bridge ou un club social. Certains feraient de la moto, d'autres feraient d'autres choses. Mais c'est ce qu'on deviendrait. Nous, si nous enlevons la résurrection, nous enlevons les repères de notre vie chrétienne. C'est sur cela que je m'appuie pour dire que j'ai un avenir, parce que Christ en a. pourquoi Christ a été capable d'être ressuscité? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il ressuscite, selon Actes 2, 27? Il n'était pas permis que le saint voie la corruption. Et le verset que vous avez lu dans, dans les présentations, dans le bulletin, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Pourquoi que Dieu pouvait le ressusciter? Parce que si Dieu punit le péché, et il le punit le péché, il ne peut accepter le péché, il est obligé, et je m'excuse de dire obligé, on n'oblige pas Dieu, c'est une mauvaise manière de l'annoncer, de le dire, Dieu bénit la sainteté. Et c'est dans sa justice qu'il le fait. Il est juste pour punir le péché et il est juste pour bénir la sainteté. Le fameux verset de 2 Corinthiens 5, 21, que j'aime beaucoup, c'est un super de beau verset. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » Il était innocent de tout péché. Le péché a été sur lui, mais jamais été en lui. Il n'a jamais vu le péché comme étant le sien. Mais il a supporté le péché de tous. Et il l'a supporté non seulement sur la croix, mais pendant ses 33 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que vous détestez le plus. Là. Imaginez ce que vous mettez dans votre tête, ce que vous détestez le plus. Okay? J'ai déjà fait cet exercice-là dans un cours que j'ai donné à EBE, et la personne me disait « les araignées ». Ah, je déteste les araignées. D'autres vont dire « c'est des serpents, je déteste les serpents ». Eh bien, promenez-vous pendant 33 ans entouré d'araignées ou entouré de serpents. Et c'est ce qu'il a vécu. Mais jamais aucun serpent ou aucune araignée a rentré en lui. Ça n'a jamais affecté sa sainteté. Donc, il pouvait, et Dieu l'a ressuscité pour cette raison-là, car il était saint, il était pur. Mais pourquoi Dieu a-t-il ressuscité le Seigneur? Quelle est la valeur de la résurrection pour ce qui nous concerne? Quelle est la valeur? D'abord, la résurrection a une grande valeur du fait que Dieu a déployé une puissance infinie, une extraordinaire, une extraordinaire grandeur de puissance. C'est immense, c'est infini, c'est non comptable. On ne peut pas comptabiliser la puissance. Et j'ai essayé autant comme autant d'essayer de trouver un lien, d'essayer de trouver une image de puissance. Et je n'en ai une, c'est la prochaine diapo, et j'ai dit, même ce matin, je parlais avec mon épouse en déjeunant, puis je dis, oh, je vais l'emmener l'image. Ah non, je ne l'emmène pas. Ah, puis je vais l'emmener. Ah, puis je ne l'emmènerai pas. Ah non, je ne l'emmènerai pas, ça n'a pas de sens. Rien ne peut se comparer. Mais si on parle juste de puissance, vous avez ici une représentation, une image de la bombe atomique, celle qui a explosé à Hiroshima et à Nagasaki. C'est à peu près ce que l'on connaît de plus puissant, la puissance nucléaire que l'homme a fait. Naturellement, ce n'est pas comparable, mais pour Dieu, ça, c'est une allumette. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas le comparer. Je l'emmène pour expliquer à quelque part que la puissance que Dieu a développée, c'était pour la vie. Et cette puissance-là, c'est pour la mort. L'homme ne fait que tuer avec ça. Il ne donne pas la vie. Mais Dieu, avec sa puissance, donne la vie. Et voilà pourquoi c'est infini. On ne peut pas comprendre. Je ne peux pas donner la vie. Des femmes accouchent d'un bébé et disent « il donne la vie ». Non, 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 non. Ne sont que des instruments. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui permet que la vie se perpétue. Et c'est cette puissance-là, il veut que l'on soit conscient que cette puissance-là est en notre faveur. Que cette puissance-là est pour nous. Que nous pouvons avoir, utiliser et vivre avec cette puissance. Et cette puissance-là qui a servi à ressusciter le Seigneur, qui est une puissance infinie. Christ est revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, et dans d'autres versions, ils disent les prémices, il annonce la résurrection des morts. La valeur de la résurrection, les prémices de ceux qui sont morts. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, Lévitique 23, Dieu demandait à ceux qui cultivaient la terre d'emmener les prémices de ce qu'ils cultivaient. Qu'est-ce que c'est, les prémices? Pour en donner un exemple bien simple, le cultivateur, l'Israélite, il cultivait un champ de blé. Et lorsqu'il arrivait près de la moisson, près de récolter tout son blé, il prenait une gerbe, okay, et il l'emmenait au sacrificateur. Et cette gerbe-là, la première gerbe qui sortait du champ, était présentée à Dieu. C'était une offrande à Dieu. C'était pour un genre de remerciement à Dieu pour dire, à quelque part, voici ce que tu m'as donné, ce que tu as fait pousser. Et je te l'offre, c'est à toi. Et la deuxième chose que cette gerbe-là signifiait, c'était la première d'une série de 100, de 1000, de 10 000 peut-être, tout dépendant de la grandeur du champ. Mais c'était une image de ce qui était pour revenir plus tard. Et cette fois-là, au cultivateur. Pourquoi cette première gerbe au Seigneur? Pourquoi cette première gerbe honore le Seigneur? Car le Seigneur aime être servi en premier. Dieu aime être servi en premier. Et c'est exactement ça que l'on doit faire. C'est exactement ce que Dieu s'attend de nous, c'est qu'il soit servi en premier. Et aussi un remerciement comme quoi ce que Dieu fait pousser. Le principe est le même. Dans le verset de 1 Corinthiens 15, verset 20, Christ est lui-même les prémices. Il est les prémices. Il n'est pas devenu, il a toujours été les prémices, mais il est celui qui est mort pour nous et il s'offre à Dieu comme une offrande de bonne odeur. On se rappelle les versets qui disent ça. C'est une offrande de bonne odeur vis-à-vis de Dieu. Et on sait que Dieu a accepté cette offrande-là parce qu'il l'a premièrement ressuscité et il vit à la droite de Dieu, position de pouvoir et de royauté. Première chose, Christ a été une offrande. Et deuxième chose, Christ a été une représentation de ce qui était pour venir par la suite. À sa suite, il accompagne avec lui tous ceux qui sont morts. Et la version synodale lui dit, il parle de ceux qui se sont endormis en lui. Qu'est-ce que c'est beau texte? Je peux m'endormir en lui. C'est un sujet de tranquillité. Je suis paisible, je suis endormi en Christ. Si je suis endormi en Christ, je vais ressusciter avec lui. Et je vais non seulement ressusciter, parce que des exemples de résurrection, on en a. Il y a Lazare qui a été ressuscité. Il y a le fils de la veuve qui a été ressuscité. Il y a une jeune fille de 12 ans qui a été ressuscitée. Et on en a des exemples de résurrection. Mais ces exemples de résurrection sont limités. Lazare, il ne vit plus. Il est mort, lui. Il est remort. Dur à dire, là, mais... Et ainsi de suite. Tous ces gens-là sont morts. Mais lorsque je vais revenir, lorsque je vais être ressuscité pour la vie, pour l'éternité. La résurrection de Christ fait en sorte que je ressuscite avec un corps qui est comme celui des prémices. Les germes de blé avaient la même nature que la première germe. J'aurai le même corps que Christ a. Et il dit à quelque part, et juste par ce fait-là, je suis capable de reprendre le même texte. Je ne peux pas dire que je suis le premier et le dernier. C'est impossible, je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire par contre que j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis capable de mettre ça à mon nom personnel. Denis Gay, François Mascotte, ou peu importe, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et si j'étais avant aujourd'hui, je suis tiré de la terre, je suis terrestre, mais un jour, je vais être céleste et je vais avoir un corps céleste, comme celui du Seigneur. Et c'est ce que le verset nous dit. Je suis céleste, je serai céleste. Quel immense privilège! Quel immense privilège immérité! Il n'y a pas d'argent pour gagner, pour avoir ça. Hein? Supposons que j'aurais 12 milliards, que je posséderais 12 milliards, puis que je vous donnerais 12 milliards pour que vous me donniez ce privilège-là. Vous diriez, c'est impossible. Ça n'a aucune valeur monétaire. La valeur est beaucoup plus grande que ça. La même image que la bombe atomique qui n'a aucune valeur à comparer à la puissance de Dieu. Mais le privilège de la résurrection. Nous sommes ressuscités et c'est un immense privilège. Un privilège amène toujours une responsabilité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu comme le permis de conduire. Ce n'est pas un droit, le permis de conduire. C'est un privilège que vous avez. Vous avez la permission de conduire. La journée que vous allez rouler 150 km/h dans une zone de 50, vous allez perdre ce privilège-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Et vous en êtes responsable. C'est la même chose. Vous avez le privilège de la résurrection et vous avez la responsabilité qui vient avec. Et cette responsabilité-là en arrive à trois points. Nous sommes responsables sur trois choses. Nous devrions considérer d'abord notre salut. Et j'ai pris le verset de Hébreux 9, 27 qui dit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il vient le jugement. » À moins que vous décidiez de mettre votre vie au contrôle de Dieu. À moins que vous décidiez de dire « Seigneur, viens, prends ma vie, elle m'appartient plus, elle est à toi. » À moins que vous disiez quelque part « Je reconnais que je suis un pécheur et que je veux mettre ma vie en règle avec toi. » Et ce verset-là ne s'adresse plus à vous. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Vous ressuscitez avec lui. Vous faites partie de la suite de ce prémisse. Si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, si vous, à quelque part, vous n'avez pas fait le step, si vous n'avez pas passé cette étape-là, comme Noé a passé la porte, si vous n'avez pas passé la porte qui mène à votre salut, aujourd'hui est le meilleur moment pour le faire. Aujourd'hui, immédiatement, dans votre cœur, est le meilleur moment pour le faire. Peut-être que vous venez à l'Assemblée depuis 10 ans. Peut-être que vous n'avez pas fait cette étape-là. C'est possible. Vous savez, on peut être très religieux. Mais la religion et le salut, c'est deux choses différentes. Et je vous exhorte, si vous n'avez pas passé cette étape-là, de maintenant en arriver à se joindre à cette prémisse que Dieu a voulu créer. Le deuxième privilège, deuxième responsabilité, c'est que nous devrions reconsidérer notre sanctification. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et Paul ici parle à des chrétiens. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et le terme utilisé en grec, c'est agnosia, qui veut dire ne cherche pas à connaître Dieu. Ils ne cherchent pas à maturer dans leur vie chrétienne. Et Jean 17, 3 va dire, la vie éternelle, c'est de connaître de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé. Et le mot « connaître » ici, c'est le mot « connaître par expérience ». Vivre des expériences avec Dieu. C'est-à-dire qu'on rouvre notre parole de Dieu et on la vit. Parce que vous savez qu'on peut ouvrir la parole de Dieu 2 heures par jour, puis rien en tirer. Je lis, puis je la ferme parce que j'ai fait mon devoir. Je l'ai lu, qu'est-ce que tu as retenu? Rien. Ça va là demain. Parce que ça fait déjà 2 heures que je lis. C'est peut-être préférable de lire 5 minutes et de méditer pendant 2 heures. C'est ce que je viens de lire. Mais de chercher qu'est-ce que la parole veut me dire. De chercher à grandir, de chercher à maturer. Et c'est le but de la vie chrétienne, maturer. Les catholiques, quand ils vont à l'église à tous les jours, j'ai rien contre les catholiques, les musulmans, les témoins de Jéhovah, ou les peu importe la religion, lorsqu'ils vont à tous les jours à leur service, est-ce qu'ils grandissent? Est-ce qu'ils les font grandir? Même si vous venez ici à tous les jours, est-ce que c'est ça qui va vous faire grandir? Non. Qu'est-ce qui va vous faire maturer? C'est lorsque vous appliquez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Troisième responsabilité, devrions considérer notre service. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Avez-vous remarqué que ces versets-là viennent d'1 Corinthiens 15, où ce qui parle de la résurrection? C'est directement lié. Autant pour mon service, Dieu veut que je travaille. Dieu veut que j'aille, que je sois occupé à ces choses. Le même principe que lorsque le Seigneur, à 12 ans, disait à son père et à sa mère, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Même s'il n'était pas compris, il a continué à travailler quand même. Je dois travailler aux affaires de celui qui va me garder pour l'éternité. C'est encore beaucoup plus important que de faire mon chiffre de 8 heures. Continuez à le faire, votre chiffre de 8 heures, vous devez rapporter quand même l'argent à la maison. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas la chose la plus importante. Il est arrivé à un moment donné où ce que, dans un cours, un homme a posé de la question, pas à moi, mais à une autre personne, qu'est-ce qui te motive à faire plein de choses? Puis c'était un homme super actif, même trop actif, mais il était actif. Qu'est-ce qui te motive à faire les choses pour Dieu, à être actif pour Dieu? Qu'est-ce qui te motive? Et il n'a pas eu le temps de répondre, il y a plein de choses qui sont arrivées, et finalement, et j'ai resté sur cette question-là. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui me motive? Et j'ai découvert, là, j'ai découvert que j'avais un vif désir. J'avais un désir intense d'être accueilli par Dieu avec ses paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voyez-vous les conséquences, voyez-vous l'ampleur de ce verset. Bon et fidèle serviteur. Et c'est à toi qu'il s'adresse, là. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Fais en sorte que tu sois joyeux comme je le suis et viens avec moi. Mais on a l'autre côté aussi. Dans le même chapitre, il dit « serviteur méchant ». Ça veut dire que ça existe. Il existe les 2 catégories. Et je désire être dans cette catégorie de bon et fidèle serviteur par mon service, par ma sanctification, parce que je veux maturer. Oui, ça a un coût. Oui, ça coûte quelque chose. Pas en argent. Mais c'est pour une puissance. C'est avec une puissance. Et c'est pour la bonne raison. Ça fait 10 mois. Que je suis à ma retraite. Et pendant que je travaillais, on me disait, fais attention, faut que tu te prépares, parce que lorsque tu vas être à ta retraite, tu n'auras plus d'autres revenus. Ça va être ton seul revenu. L'argent qui va rentrer, c'est rien que ça, c'est tout. Ouais, OK. Ça veut dire qu'il faut que tu te prépares, ça. Fait que des années avant ma retraite, j'ai pris des REER, je me suis préparé à ma retraite. J'ai mis un peu d'argent de côté, un peu plus. Je me serrais à la ceinture, pas trop, vous avez remarqué. Mais je me suis serré à ceinture, j'ai fait des choix. Pourquoi? Pour avoir une retraite un peu plus confortable. Je me suis préparé à ma retraite. Mais Dieu me montre par la résurrection, Dieu me montre par ce que j'ai vécu, comment est-ce que je dois me préparer pour l'éternité? On a l'habitude de dire, « Hey, je suis sauvé! » Je peux m'asseoir, je suis sauvé. Non. Je suis sauvé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je suis sauvé? Comment je peux te servir? Comment je vais préparer mon éternité? Comment je vais aller plus loin? Parce qu'oubliez pas, lorsque vous allez mourir ou lorsque le Seigneur va revenir, c'est fini la chance de pouvoir préparer votre éternité. Vous allez passer à une autre étape. C'est la dernière chance que vous avez ici de vous préparer pour l'éternité. Aujourd'hui, je suis à ma retraite. Je ne peux pas retourner travailler, retourner en arrière et dire « Hey, j'aimerais ça faire plus d'argent. » Non, je ne peux pas. Je suis à ma retraite. Oui, je pourrais toujours travailler, mais j'abandonnerai d'autres choses. On a un choix à faire. Comme on se prépare pour la retraite, on doit se préparer pour l'éternité. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, tout ce que l'on fait aujourd'hui, de bon ou de pas bon, de méchant et de bon, tout ce que l'on fait aujourd'hui a des répercussions au ciel pour l'éternité. Moi, ça me met dans mes tissuyers. Moi, à quelque part, ça me parle. Tout ce que j'envoie au ciel a des répercussions pour l'éternité. Et si vous pensez que vous n'avez pas la puissance pour le faire. Si vous pensez que vous dites, « Moi, je ne suis pas capable parce que je suis trop vieux ou je ne suis pas assez intelligent ou peu importe la raison que vous allez pouvoir mentionner, je vous ramène au dernier verset. » Et j'aimerais que vous vous leviez et qu'on le dise deux fois, ce verset-là. S'il vous plaît, tout le monde debout. Tout le monde debout. Quel est envers nous? Tout fort, tout fort, tout fort, tout fort. Allez-y, allez-y. Qui croyons, vini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Une autre fois. Quel est envers nous? Qui croyons, fini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour ce salut si merveilleux. Merci Seigneur pour nous montrer que ce n'est pas juste un salut où je dois m'asseoir, mais c'est un salut sur lequel je dois travailler continuellement. Je n'ai pas fini. Ce n'est pas fini, Seigneur. Mais je veux continuer à travailler à ton œuvre. Montre-moi aujourd'hui, dans l'intimité de ma prière, dans l'intimité de ma chambre, montre-moi comment je peux être un bon et un fidèle serviteur pour toi. Montre-moi, Seigneur, comment je peux entrer dans la joie, dans ta joie. Seigneur, je ne veux surtout pas te décevoir lorsque je suis devant toi. Je ne veux pas avoir cet accueil, Seigneur, qui dit, « Entre ici, méchant serviteur, qui n'a rien fait pour moi, ou qui a fait si peu, qui n'a pas cru à ma puissance, qui n'a pas cru à mes possibilités. » Permets, Seigneur, que je sois conscient de cela tous les jours, au quotidien, que je sois conscient lorsque je vais me retourner chez nous dans quelques minutes. Et que je sois conscient à tous les jours que je dois travailler à ton œuvre pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.